France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, suivez-moi en quête de politique pour compléter notre collection de ismes, mieux comprendre les idées et les mots de la politique, leur histoire, leur signification et leurs évolutions.
En quête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Le racisme, épisode 3, la chose la mieux partagée du monde.
Le peuple grec est un peuple d'élection. Notre culture est supérieure, notre civilisation, nos hommes sont supérieurs.
Attention !
Tous les autres peuples sont des barbares.
Est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ?
L'homme nordique devait être courageux, entreprenant, aventureux. Ensuite venait la race westphalienne, c'était la race de l'attachement à la terre. Après venait la race dinarique, c'était la race montagnarde. Ces trois meilleures races aryennes se trouvaient mêlées en une seule personne, notre Führer.
Propos racistes, passage à tabac. Ils mettent en lumière le traitement réservé par une partie de la population tunisienne aux migrants subsahariens.
Que faudrait-il pour fonder le racisme ? Il faudrait deux affirmations. Un, les races humaines, ça existe. Deux, on peut les hiérarchiser. Or, il se trouve que la science les détruit l'une et l'autre.
Pour ce troisième volet de notre série sur le racisme, nous allons aux origines du racisme qui va justifier l'esclavage et la colonisation, deux grands mouvements historiques fondateurs de domination et de discrimination. On a vu avec les historiens que nous avons rencontrés pour les deux premiers épisodes d'Enquête de politique sur le sujet que le racisme n'est pas dans la nature humaine, il vient toujours pour justifier une domination et il prend des chemins divers. La justification évolue, mute, à mesure qu'il est démontré qu'elle n'est basée que sur du fantasme ou de la manipulation. Pour comprendre les prémices des arguments qui seront utilisés pour légitimer la chosification, la bestialisation de l'autre, eh bien il faut aller au Proche-Orient à la fin du premier millénaire. Et pour cela, nous aurons comme guide l'historienne Catherine Kokri-Vidrovitch, mais nous allons commencer par Salah Trabelsi. Salah Trabelsi est historien à l'université Lyon 2, spécialiste du monde arabe et musulman médiéval et de la traite des esclaves. Il est l'auteur de « Les esclavages en Méditerranée » aux éditions La Casa de Velázquez. Salah Trabelsi.
Aujourd'hui, ce que nous vivons en Tunisie montre une montée de la xénophobie et du racisme envers les migrants, surtout subsahariens. Mais cette explosion de comportements et de violences à la fois verbales et même qui va à certains moments à des scènes de lynchage vis-à-vis de ces gens-là ne date pas malheureusement d'aujourd'hui. Aussi bien la Tunisie que l'Algérie, que le Maroc, que la Libye ou l'ensemble des pays arabes ont une vieille tradition d'attitude pulsionnelle et négrophobe qui remonte au temps post-expansion musulmane à partir de la naissance des grands empires, l'empire omayyade et l'empire abbasside.
On est à quel siècle ?
Alors, les omayyades, c'est le milieu du 7e siècle jusqu'au milieu du 8e siècle. Et puis les abbassides, en effet, qui vont prendre donc la relève et qui vont aller jusqu'à la chute de Bagdad au milieu du 13e siècle. Et puis, par la suite, avec l'arrivée des Ottomans, des Mamelouks, et on va assister à la mise en place de toute une littérature, de toute une rhétorique qui va justifier l'esclavage des Noirs et créer autour de la couleur noire tout un référentiel qui va se développer en termes de naturalisation et d'essentialisation.
Il y a des auteurs de cette époque-là qui font des descriptions des Noirs subsahariens, des descriptions terribles pour justifier le fait qu'ils soient esclavagisés, c'est ça ?
Oui, on va construire tout un chapelet de données et d'éléments de racialisation et de catégorisation des Noirs. Et cette construction, en effet, va se faire à partir d'un auteur qui remonte au Xe siècle, qui était à la fois un géographe, un voyageur, et qui va, lui, s'appuyer sur les éléments puisés dans la tradition, surtout gréco-romaine, et qui va en effet faire référence à de grands médecins comme Galien ou Hippocrate pour justifier l'infériorité des Noirs et surtout le rapport entre leur spécificité physique et psychologique à partir justement d'une référence à la géographie, à partir d'une référence au climat. On va assigner aux Noirs des particularités. Alors, c'est Al-Massoudi qui est l'auteur d'une grande encyclopédie qui fait 4 volumes et qui s'intitule « Les prairies d'or ». Il va parler des Noirs, et notamment des Noirs de l'Afrique orientale, en parlant de leur manque de sagacité, la faiblesse de leur intelligence. Et c'est dans ce texte-là où il va spécifier quelques éléments relatifs aux Noirs et qui font que ces Noirs ne pouvaient pas être assimilés.
Galien attribue aux Noirs 10 traits spécifiques.
Lecture d'un texte de l'encyclopédiste Al-Massoudi datant de 943.
Les cheveux crépus, les sourcils rares, les narines développées, les lèvres épaisses, l'odeur forte de la peau, la noirceur de la prunelle, le développement de la verge et une gaieté excessive. La prédominance de ce dernier trait s'explique par la débilité du cerveau du noir, la vivacité du noir, l'empire que prend sur lui la joie et la pétulance extraordinaire qui distingue les Inges parmi toutes les lignées noires ont inspiré à d'autres auteurs des observations que nous avons insérées dans nos ouvrages précédents.
Mais alors pour lui, c'est du racisme dû à ce que sont les Noirs ou c'est à cause de la géographie, du climat et que finalement ils n'auraient pas pu se développer comme ceux de sa race à lui?
Pour lui, dans sa justification, c'est d'abord la géographie, c'est le climat et c'est ce qui a prédominé pendant des siècles, cette théorie des humeurs. Et selon lui, le fait que les Noirs se situent dans une zone géographique marquée par la chaleur et par l'aridité fait que leur apparence physique, leur esprit, soit déterminée par ce contexte géographique. Pour lui, l'influence de la chaleur attire les humeurs dans la partie supérieure du corps du noir, et ce qui explique en effet, par exemple, un certain nombre de spécificités comme les lèvres pendantes, comme il dit, le nez aplati et gros, la mollesse de la tête, et tout cela donc était expliqué par ce qu'il appelle l'abondance des humeurs qui sont attirées vers le haut de son corps.
Est-ce qu'on peut dire, Salah Trabelsi, que Al-Massoudi a figé pour des siècles des préjugés, des théories qui après se sont réparties?
Mais justement, c'est que ces préjugés vont avoir longue vie puisque ces réservoirs anciens de catégorisation et d'essentialisation des Noirs vont continuer à travers justement les méthodes éducatives. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui dans les manuels scolaires, on fait référence toujours et encore à ces corpus anthropologiques médiévaux.
L'indolence et à cause de la chaleur, ces stéréotypes-là.
C'est ce genre de stéréotypes, en effet, qui continuent à être aussi véhiculés, y compris par les manuels scolaires actuels. Par exemple, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, on fait encore référence non seulement à Massoudi, on fait référence donc on a Massoudi, Ibn Khaldoun, également dans la littérature à travers justement un grand poète qu'on considère comme le maître absolu de la littérature arabe et de la prosodie arabe, Al-Mutanabbi, qui a été à l'origine également d'un poème d'une violence acerbe à l'encontre des Noirs.
N'achète jamais d'esclaves sans le bâton qui l'accompagne, car les nègres ne sont qu'une infection répugnante. Qui a appris aux nègres émasculés le sens de l'honneur? Est-ce ses ancêtres blancs? Où est-ce ses pères vertueux? Où est-ce son oreille sanguinolente saisie dans la main du maquignon? Où est-ce encore ses mérites personnels? Alors que même à deux sous, on ne lui trouve point d'acquéreur. Poème Mutanabbi, 965.
Ces textes-là font partie de l'actualité éducative et les élèves apprennent dans le collège ce poème par cœur comme étant justement le, voilà, considéré comme le summum de la poésie et de la littérature arabe.
Ce que vous nous dites, Salah Trabelsi, c'est que le racisme à l'ancienne, hein, parce qu'on a connu ce racisme aussi en France, il change maintenant en France, c'est une autre forme de racisme plus culturel, plus religieux, mais ce racisme-là existe toujours dans les pays arabes et dans le monde arabo-musulman ?
Ben écoutez, ce racisme-là existe toujours dans le monde arabe et particulièrement au Maghreb et en Tunisie aujourd'hui, parce que quand on regarde ce qui se passe vis-à-vis des migrants dans un pays comme la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc, les migrants ne sont pas traités de la même manière. Vous avez en effet entre 50 000, enfin maximum 70 000 migrants d'origine subsaharienne, mais parallèlement à cela, en Tunisie par exemple, vous avez presque 1 million de réfugiés et de migrants libyens ou syriens.
Ils ne sont pas traités pareils.
Ils ne sont pas traités pareils parce que on parle en Tunisie, y compris au plus haut sommet de l'État, de mettre fin au péril noir qui menace non seulement la démographie du pays, mais également sa composition culturelle et sa composition arabo-musulmane.
Les objets et les souvenirs des 5 années qu'ils ont passées en Tunisie doivent tenir dans quelques valises.
Reportage de France 24 en 2023.
Un déchirement pour Oscar et son épouse. Ces deux Ivoiriens ont fait le choix de rentrer au pays. Ils ne veulent plus subir les agressions et les menaces quasi quotidiennes.
J'ai mis mes premiers pas ici. Après 4 mois ou 5 mois, j'ai commencé à regretter d'être ici. Franchement, il faut que je le dise. Je suis venu ici, je ne suis pas tranquille. Parce que dans le bus, on m'a une fois battu dans le bus. Parce que j'ai demandé au receveur, je veux ma monnaie. Le receveur dit, tu ne m'as pas remis l'argent. Moi, je dis, j'ai été remis. En fait, tous ses frères, ils m'ont commencé à me tabasser dans le bus.
Propos racistes, expulsion, passage à tabac. Les témoignages comme celui d'Oscar se sont multipliés ces dernières semaines. Ils mettent en lumière le traitement réservé par une partie de la population tunisienne aux migrants subsahariens.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec l'historien spécialiste du Proche-Orient et du commerce des esclaves, Salah Trabelsi.
Et là aussi, on est dans un paradoxe terrible parce que parmi les migrants en Tunisie, on a des Soudanais. Or, le Soudan est un pays arabe, un pays musulman aussi, du moins officiellement, c'est du moins le Soudan du Nord aujourd'hui. Et les Soudanais ne sont pas traités de la même manière que les Libyens ou que les Syriens qui se trouvent donc également en Tunisie.
On a toujours l'impression, Salah Trabelsi, que le racisme est réservé surtout aux Blancs. C'est-à-dire que les Blancs sont à l'origine du racisme. Et c'est vrai qu'avec la colonisation et avec l'esclavage, c'est ce qu'on retient et c'est tout à fait logique. Mais vous, vous êtes professeur à l'université. Quand vous dites tout ça, quand vous expliquez le racisme intra-africain, le racisme du monde arabo-musulman vis-à-vis des Africains subsahariens, comment c'est reçu ? Est-ce que vous êtes critiqué ? Est-ce que vos étudiants sont étonnés ?
Ben écoutez, c'est vrai que la première réaction de mes étudiants, c'est la surprise et c'est l'étonnement. Parce que dans ces pays-là, on a l'impression paradoxale de ne pas être raciste.
Parce qu'on subit le racisme aussi.
Parce qu'on subit le racisme et parce que on se présente comme étant en effet victime de ce racisme qui vient du monde occidental. Et en tant qu'ancienne colonie, en tant que pays également marqué par une importante migration vers l'Europe et vers les États d'Amérique.
Marqué par les discriminations qui peuvent exister.
Et par les discriminations, par le rejet. Mais en même temps, bon, bien sûr, quand je montre à mes étudiants, en effet, les textes et les bases essentielles, hein, justement, de cette négrophobie, en quelque sorte, à la fois doctrinale, et sociale et culturelle. Et c'est vrai que l'étonnement, c'est de se dire, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas eu accès à ces textes-là avec la contextualisation qui suit? Parce que, justement, ces textes sont appris dans ces pays-là, mais sans qu'on puisse prendre justement le temps nécessaire pour se détacher.
Pour expliquer que c'était une justification pour l'esclavage à l'époque.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, alors on a un exemple encore, y compris dans les sociétés maghrébines, et notamment en Tunisie, en ce qui concerne ces mécanismes complexes relatifs à la construction de l'altérisation. Chez les femmes, en Tunisie, par exemple, on a tout un chapelet de conjurations et de prières quasi magiques qui étaient censés préserver la pureté des matrices des femmes et de leurs entrailles et de tenir leurs fruits à distance des dangers, en effet, de la noirceur. Alors, on a des proverbes encore dans nos pays du Maghreb qui sont présentés sous le mode « Que Dieu ne noircisse pas nos matrices et celles de nos filles ».
Et ça, ça date de...
C'est récent, hein. Et puis ça remonte, bien sûr, à la nuit des temps, mais encore, dans la bouche de certaines femmes, on retrouve justement ce genre de proverbe. Et pourtant, c'est des sociétés qui sont visiblement des sociétés non blanches. Et donc, le problème, aujourd'hui, c'est que la définition de soi, dans les pays de Maghreb, et surtout dans les pays arabes, met en scène, justement, ces critères phénotypiques, et surtout, à partir du parti pris de ne pas être identifié comme noir.
Oui, il y a tout un jeu de nuanciers subtils. Est-ce que, Salah Trabelsi, est-ce que ce que vous avez remarqué, ce que vous nous décrivez de la Tunisie, peut être observé aussi au Maroc ou en Algérie, en Libye aussi?
Bien sûr, on a les mêmes éléments qu'on retrouve aussi bien dans les pays du Maghreb, et si on élargit le focal, y compris en Égypte, hein, vous savez, un des reproches qu'on avait fait au président égyptien Anwar Sadat avant son assassinat, c'était justement d'être trop foncé. Ce qui fait qu'il ne correspondait pas, en quelque sorte, aux critères de l'imagerie collective.
L'imagerie idéale.
De l'imagerie idéale, qui fait que, justement, on s'estime ne pas être aussi foncé que cela. Alors que vous allez en Égypte, hein, donc c'est, je veux dire, ou dans les pays du Maghreb, je veux dire, les trois quarts des gens sont plutôt de couleur assez foncée. Et on va encore plus loin, hein, parce que, parmi les textes qui ont contribué à mettre en place cette rhétorique et cette vision du rejet de la couleur noire, on a un texte qui date du milieu du XIIIe siècle, quelqu'un qui s'appelle Ibshihi, hein, qui était contemporain en quelque sorte d'Ibn Khaldoun, et qui lui va encore plus loin, puisqu'il explique que même les métis étaient encore plus misérables et plus perfides que les noirs.
Nous sommes reçus maintenant par l'historienne et grande voyageuse Catherine Kokrividrovitch dans sa maison de Malakoff au sud de Paris. Catherine Kokrividrovitch est née en 1935 et a passé une partie de sa vie à parcourir l'Afrique pour ses recherches. Elle est l'autrice entre autres de « Les routes de l'esclavage, histoire des traites africaines du 6e au 20e siècle » chez Albin Michel et de « Le choix de l'Afrique à la découverte ». Nous sommes dans son bureau au milieu de ses livres et de ses quelques objets souvenirs de voyages d'Afrique et d'ailleurs. Catherine Kokrividrovitch, quelle était la forme de racisme d'abord des esclavagistes? Comment justifier l'esclavage par la soumission de l'autre? Qu'est-ce qu'on pensait de l'Africain subsaharien pour pouvoir en faire une chaire de travail gratuite?
À l'époque, on s'est vraiment demandé si les Africains, si les gens de couleur, si les Indiens, d'ailleurs les Indiens d'Amérique, ben, étaient des humains, étaient vraiment des humains ou étaient quelque chose d'intermédiaire entre l'animal et l'être humain. Et ça a été la grande question au XVIe siècle, au XVe siècle en Amérique, quand Las Casas était contre l'esclavage des Indiens d'Amérique, la question était de savoir est-ce qu'ils ont une âme ou pas. Finalement, on a conclu qu'ils avaient une âme, donc c'était des êtres humains. Mais enfin, c'était pas évident du tout. Par conséquent, c'était des êtres inférieurs, par nature, disons.
S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, oui, d'une âme raisonnable, comme nous.
Extrait du téléfilm La controverse de Valladolid, France 2, en 1992. Vous reconnaîtrez Jean Carmet dans le rôle du cardinal Rancieri et Jean-Pierre Mariel dans celui du dominicain Bartholomé de Las Casas.
En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ses habitants sont noirs, très frustes.
L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition?
Pourquoi voulez-vous qu'elle s'y oppose? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose?
Éminence, cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus.
À des guerres, à des révolutions.
Des créatures de Dieu faites pour servir les hommes.
Ouais, éventuellement, oui, effectivement, s'en servir en tous les cas comme ça. Au XVIe siècle, donc, la question est résolue pour les Indiens d'Amérique. Les Indiens d'Amérique qui n'étaient pas noirs d'ailleurs, enfin qui étaient basadés, disons.
Des peaux rouges, on disait.
Oui, n'ont pas le droit d'être esclavisés parce qu'ils sont considérés comme des êtres humains. On ne se pose pas la question pour les noirs. On savait qu'ils existaient à l'époque, on s'en servait, il y en avait. Il n'y en avait pas énormément en Occident. Et le problème noir ne s'est posé en fait qu'avec l'expansion de l'islam à partir de l'Arabie. Les Arabes musulmans ont envahi, entre autres, l'Afrique du Nord. Ils sont arrivés dans le pays berbère. Ils ont d'abord considéré que les berbères étaient des êtres inférieurs. Et puis finalement, ils les ont utilisés pour ramasser des esclaves plus au sud. Et ces esclaves étaient noirs. Et c'était un peu une nouveauté, on connaissait. Déjà, il y en avait eu dans l'Antiquité. Mais enfin, c'était exceptionnel, disons. Il n'y avait pas beaucoup de population noire dans le reste du monde. Seulement à partir du 8e siècle, les Arabes musulmans d'Arabie s'installent en Afrique du Nord. Ils commencent à recruter des esclaves. Et finalement, les berbères se sont convertis à l'islam et sont devenus les intermédiaires à travers le Sahara pour aller en chercher au sud du Sahara. Et c'est comme ça que véritablement la traite des Noirs a existé. Et le premier acte connu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas avant, mais le premier acte connu est un traité, un pacte, qui, entre les souverains musulmans qui occupaient l'Égypte à ce moment-là, et le sud, la Nubie, ils voulaient conquérir la Nubie, ils n'y arrivent pas, donc ils concluent un accord. Les Nubiens doivent leur livrer 300 esclaves par an. Ça daterait du 9e siècle, et ça a été en usage jusqu'à l'Empire ottoman, jusqu'au 15e siècle.
Traité accordé par l'émir Abdallah Ben Saad au roi de Nubie et à tous ses sujets auxquels les Nubiens, depuis les frontières de la loi, sont tenus de se conformer.
Extrait de l'accord entre le royaume nubien copte et l'Égypte musulmane.
Article 5. Vous livrerez chaque année 360 esclaves des deux sexes qui seront choisis parmi les meilleurs de votre pays et envoyés à l'imam des musulmans. Tous seront exempts de défauts, on ne présentera ni vieillard décrépit, ni vieille femme, ni enfant en dessous de l'âge de la puberté. Vous les remettrez au gouverneur d'Assouan.
C'est la première preuve, si vous voulez, c'est la première trace écrite de la traite des Noirs par les Blancs. Alors, la question est que l'esclavage est quelque chose de tout à fait institutionnalisé partout dans le monde à l'époque. Les esclaves étaient de toutes les couleurs, il n'y avait pas encore d'esclaves noirs à l'époque, il y en avait très peu. Mais il y avait beaucoup d'esclaves blancs, on oublie maintenant, mais la plupart des esclaves étaient blancs. Ils arrivaient...
Les Slaves, par exemple?
Oui, ils arrivaient justement des grandes plaines du nord de la Russie actuelle. Kiev était un grand marché d'esclaves vers l'Empire ottoman, vers Istanbul. Et l'esclavage est quelque chose de tout à fait, disons, normal, entre guillemets.
Mais avant que l'esclavage soit exclusivement ou quasi exclusivement composé de Noirs d'Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y avait, par exemple, quand on achetait ou on vendait, on faisait commerce d'esclaves venant de Russie, est-ce qu'il y avait une forme de racisme? Est-ce qu'on considérait que ces esclaves, on pouvait les utiliser comme des meubles, c'était d'ailleurs leur statut juridique, parce qu'ils étaient... considérés comme de race inférieure?
Oui, alors est-ce que c'était du racisme proprement dit? Oui, bien sûr, dans ce sens-là. Non, dans la mesure où ça n'était pas une théorie raciale, mais simplement ils étaient inférieurs. Et surtout, ils étaient. On reposait sur ce qu'avait dit Aristote dans l'Antiquité, ils étaient barbares, ils n'étaient pas cultivés. La grande différence entre ceux qu'on esclavisait et les autres, c'est qu'ils n'avaient pas la culture du dominant, et donc ils n'avaient pas de culture, ils étaient sauvages.
Oui, ça fait quand même une différence entre le fait de ne pas être cultivé et donc de pouvoir devenir cultivé, ou alors le fait d'être ontologiquement, physiquement, biologiquement inférieur et de ne jamais pouvoir être cultivé.
Oui, alors la fabrication véritablement du racisme, c'est quelque chose de relativement tardif. C'est arrivé dans l'océan Atlantique, plutôt vers la fin de l'esclavage, la fin de la traite. C'est-à-dire à partir de la fin du XVIIIe et XIXe siècle. Un détail important, c'est que l'esclavage des Noirs ne concerne en réalité qu'une partie du monde. Essentiellement l'océan Atlantique, le continent africain, plutôt du côté atlantique ou du côté de l'océan Indien aussi, également, parce que les Arabes utilisaient beaucoup les Africains de la côte orientale d'Afrique. Mais on trouve des esclaves noirs un peu dispersés dans le monde, mais pas énormément. On en a trouvé au Xe siècle à Canton, en Chine. Enfin, ils circulaient aussi, évidemment. C'était une marchandise qu'on a parlé. Mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est véritablement un phénomène, je dirais, occidental.
Article 44.
Extrait du Code noir signé par Louis XIV en 1685.
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse.
Le racisme a pris sa forme dans l'océan Atlantique.
Le racisme scientifique.
Avant, disons, les Noirs étaient inférieurs. Parce que c'était des animaux, on ne savait pas très bien, on avait continué sur cette idée que est-ce que c'était des hommes, est-ce que c'était des êtres humains, est-ce que c'était des animaux. Ils étaient frustes, ils étaient ignorants, ils n'étaient pas civilisés, et donc ils étaient sauvages. Et des hommes sauvages, on pouvait s'en servir que comme esclaves. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin.
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
Montesquieu, de façon ironique, résume pour les critiquer l'argument chrétien des esclavagistes.
Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête. Et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout noir. Montesquieu, de l'Esprit des lois, de l'esclavage des nègres, 1748.
France Inter, enquête de politique.
Second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backlash? I'm gonna leave you with a backlash blue. We'll be right back.
Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose? I'm gonna leave you with the backlash blues. You're the one who'll have the blues, not me. Just wait and see.
Nina Simone sur France Inter, Backlash Blues, c'était en 1967.
Thomas Legrand.
Enquête de politique sur le racisme, troisième volet. Les quatre épisodes sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceinter.fr. On retrouve l'historienne spécialiste de l'esclavage, Catherine Kokri-Vidrovitch, avec ce paradoxe. Le racisme, tel que nous l'entendons aujourd'hui, apparaît au moment où l'esclavage commence à être contesté.
C'est arrivé progressivement au XVIIIe siècle, paradoxalement, avec la lutte contre la traite des esclaves, justement, des philosophes, l'idée que tous les hommes étaient libres et égaux, théoriquement, et par conséquent que l'esclavage était un mal. Ça apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et progressivement, entre les années 1780 et 1880, la traite des esclaves, elle parle toujours de l'Atlantique, c'est-à-dire que c'était devenu essentiellement des esclaves noirs, et l'esclavage devienne condamné. Et c'est à ce moment-là que le racisme vraiment va se développer. Parce qu'avant, c'était normal, en particulier pour les « normales », entre guillemets, bien entendu. Pour les maîtres, ils possédaient des esclaves qui étaient très faciles à connaître, ils étaient noirs. Et à la limite, tout noir était fait pour devenir esclave, ou tout esclave était noir. Donc, on n'avait pas à différencier. On savait, sur une plantation, ils étaient noirs, c'était les travailleurs, ils étaient blancs, c'était les maîtres. À partir du moment où on supprime officiellement l'esclavage, on condamne l'esclavage, les esclaves noirs continuent à faire tous les sales boulots. Mais pourquoi? C'était parce qu'ils étaient noirs. Alors c'est plus parce qu'ils sont noirs. Il faut trouver une raison. Pourquoi est-ce que les noirs sont moins bien que les autres? Ben parce qu'ils sont une race différente.
En fait, on cherche des justifications à ce moment-là. À partir du moment où c'est plus normal, avec les guillemets que vous avez mis, bien sûr, il faut des justifications.
La notion de race, dans ce sens-là, elle apparaît à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Avant, c'était au contraire, être de race, c'était être de race noble. Quelqu'un de race, c'était quelqu'un qui descendait depuis Clovis ou Charlemagne.
C'était une lignée, c'était être
une lignée, voilà, c'est ça. Et il y a deux personnes, deux savants, qui a été très important dans le démarrage du racisme proprement dit, c'est Linné, qui était scandinave, je crois qu'il était suédois. Alors Linné, lui, dans les années 1750, deuxième moitié du 18e, il explique vraiment qu'il y a des races différentes. Et il distingue trois races, la blanche, qui est supérieure, la noire, qui est inférieure, et puis un intermédiaire, qu'on a appelé les jaunes après. Et il les caractérise par des caractères différents. Le blanc est orgueilleux, et il a telle qualité, le noir ne fait rien, et paresseux, etc. Donc il y a toute une série de qualificatifs pour expliquer qu'il y a des races différentes. Et il n'était pas du tout gêné, apparemment, Linné, par le christianisme de l'époque. Parce que, d'après le christianisme, tout le monde descend d'Adam et Ève. Donc lui, ça ne le gênait pas du tout, il n'en parle pas. Il y en avait un autre, qui était Buffon, qui était le naturaliste français, qui, quelques années après, également à la fin du XVIIIe siècle, explique qu'il y a des races différentes. Seulement, lui, il était un petit peu gêné parce qu'il était chrétien, et donc tout le monde descend d'Adam et Ève, et donc tout le monde était pareil à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a eu une explication tout à fait, je dirais, moderne, pour plaisanter. C'est climatologique et écologique. Des populations qui étaient trop au soleil, le soleil les a détériorées. Le résultat de la détérioration, ce sont des Noirs qui sont donc inférieurs. Et ça devient la conviction des scientifiques européens au XIXe siècle. Ça se construit au XIXe siècle, avec aussi des théoriciens racistes qui n'étaient pas scientifiques, mais qui expliquent qu'il y a des êtres humains qui sont inférieurs aux autres. Alors évidemment, vous avez les humanistes qui disent les Noirs sont inférieurs, c'est une race inférieure, mais il faut les éduquer. Et puis les utilitaires qui, au contraire, sont très contents d'avoir des inférieurs pour servir pour tous les boulots que les Blancs ne veulent pas faire. Et ça, c'est la croyance généralisée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec un scientifique très connu qui s'appelle Broca. Il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Broca. Broca était très raciste dans les années 1880. Et il veut absolument démontrer. Alors c'était la mode à l'époque, la tendance de l'anthropologie physique. C'est-à-dire que les anthropologues mesuraient les crânes, mesuraient les bras, mesuraient les squelettes, etc. Broca veut trouver dans la morphologie la preuve de l'infériorité de la race noire.
En moyenne, la masse de l'encéphale est plus considérable chez l'adulte que chez le vieillard. Chez l'homme que chez la femme, chez les hommes éminents que chez les hommes médiocres et chez les races supérieures que chez les races inférieures.
Extrait du dictionnaire encyclopédique des sciences médicales de Paul Broca en 1876.
Toutes choses égales d'ailleurs, il y a un rapport remarquable entre le développement de l'intelligence et le volume du cerveau. Ainsi, l'obliquité et la saillie de la face, constituant ce qu'on appelle le prognatisme, la couleur plus ou moins noire de la peau, l'état laineux de la chevelure et l'infériorité intellectuelle et sociale sont fréquemment associés, tandis qu'une peau plus ou moins blanche, une chevelure lisse, un visage orthognate sont l'apanage le plus ordinaire des peuples les plus élevés dans la série humaine. Jamais un peuple à la peau noire, aux cheveux laineux et au visage prognate, n'a pu s'élever spontanément jusqu'à la civilisation.
Donc Broca va se reporter à un personnage relativement célèbre du début du XIXe siècle. Dans les années 1810, il y avait une Sud-Africaine qui s'appelle Sars de Batman, qui avait une caractéristique morphologique assez répandue en Afrique du Sud, un postérieur graisseux et dominant. Elle l'avait très fort. Donc son maître la vend à un montreur de foire à Londres. Elle est exposée à Londres et elle arrive en France avec les bagages des troupes anti-napoléoniennes en 1810. Enfin, elle meurt en 1810. Là, les médecins français la mesurent dans tous les sens parce que c'est un phénomène, effectivement, qu'ils ne connaissaient pas. Et Broca, dans les années 1880, dit « Ben voilà, je vais comparer mes mensurations à celles de la Vénus Hottentote. » Elle était surnommée la Vénus Hottentote.
« J'ai l'honneur de présenter à l'Académie les organes génitaux de cette femme. »
Extrait de « La Vénus Noire », un film d'Abdelatif Kechiche, conférence de Georges Cuvier à l'Académie de médecine en 1817.
« Le voile des Boschmann n'est pas une de ces particularités d'organisation qui permettrait d'établir un rapport entre les femmes et les singes. Car ceci, loin d'avoir les nymphes prolongées, les ont en général peu apparentes. Il n'en est pas de même de ces énormes masses de graisse que les Boschmann portent sur les fesses et qui seraient naturelles et communes à toute la nation. Elles offrent une ressemblance frappante avec celles qui surviennent aux femelles des mandrilles, des papillons, etc., et qui, à certaines époques de leur vie, prennent un accroissement tout à fait considérable.
Nous sommes toujours chez Catherine Cochry-Vidrovitch et nous parlons de la Vénus Hottentote et des élucubrations pseudo-scientifiques de Paul Broca.
Il avait cru que le rapport entre l'humérus et le radius, alors je ne sais plus dans quel sens, enfin, c'est tout à fait authentique, ça. Était justement supérieur ou inférieur, je ne sais plus. Et c'était la preuve qu'ils étaient inférieurs. Alors, il va chercher les mensurations de la Vénus Hottentote. Patatras, elle aurait été très intelligente d'après ses mensurations, le rapport. Donc, ça. Mais l'histoire est tout à fait authentique. Ceci dit, ils ont continué quand même.
J'imagine qu'on a trouvé d'autres mesures pour définir ce qu'on voulait.
Bien entendu, c'était...
Est-ce qu'il y a des arguments qui évoluent pour justifier la colonisation par rapport à l'esclavage ? Parce que la colonisation, on connaît le discours 1885, le débat Clémenceau-Ferry. Ils étaient tous les deux issus des Lumières, tous les deux de bons républicains, et ils ont des positions opposées. Alors là, là, on n'est plus dans une même forme de racisme. C'est une autre forme de racisme du côté
c'est
de Ferry.
C'est une autre forme de racisme. Alors, la lutte contre le racisme a vraiment existé, avec des antiracistes réels. Et puis,
donc les Manceaux.
Oui, donc les Manceaux. Et puis les colonisateurs. Les colonisateurs expansionnistes. C'était le début de l'expansion coloniale, en réalité, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et à cette époque-là, à cause de l'évolution interne des systèmes africains intérieurs, qui avaient vécu de la traite et des trafics de la traite depuis 3 siècles ou 4 siècles, qui s'étaient intégrés dans ces réseaux, et vous aviez donc des réseaux internes de traite très importants pour fournir sur les côtes les esclaves qui partaient pour les pays occidentaux. Et ce phénomène a fait que l'esclavage s'est beaucoup répandu à l'intérieur des sociétés africaines. Il existait déjà avant, il existait partout, l'esclavage, mais il existait comme une autre forme de travail. Au XIXe siècle, véritablement, il y a un accroissement très fort de la servilité, du système esclavagiste interne au système africain, ben, qui se sont rendus compte que ça marchait très bien du côté occidental, pourquoi pas chez eux, je simplifie un peu, mais, et que c'était rentable. Et donc, le grand argument des colonisateurs, c'est qu'il faut lutter contre l'esclavage dans les sociétés africaines, et nous allons les libérer. Et ça, ça a beaucoup joué. Et évidemment, les colonisateurs ne savaient pas que si l'esclavage s'était tellement répandu, c'était à cause de traite esclavagiste. C'est tout à fait vrai qu'à la veille de la colonisation, dans les années 1880, possiblement la moitié, sinon les deux tiers des populations étaient considérées comme des esclaves à l'intérieur d'un certain nombre de régions africaines. Mais ça ne veut pas dire que les colonisateurs ont supprimé l'esclavage. Parce que, en fait, au début de la colonisation, ils avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Il fallait construire des chemins de fer, des ponts, faire toute une série de travaux de force. Les gens ne voulaient pas s'engager parce qu'ils étaient très mal payés et qu'ils ne connaissaient pas. Et par conséquent, l'administrateur s'adressait au chef de village en disant « Donne-moi tant d'hommes, 50 hommes ou 100 hommes. » Et le chef de village, ben, il fournissait d'abord les esclaves. L'administrateur le savait très bien, mais ce n'était pas son problème, puisque c'était un problème interne. Et ça, ça a duré jusque dans les années 1920. Mmh. Entre 1880 et 1920, effectivement, la plupart des employés, disons, par les coloniaux, étaient des esclaves africains. C'est le cas d'ailleurs des recrutés de la Première Guerre mondiale. Il y a eu 180 000.
Les fameux tirailleurs sénégalais.
Mais la plupart, en réalité, s'engageaient contre la promesse que quand ils seraient libérés, au bout de 14 ans, ils seraient libres. Probablement, les deux tiers des tirailleurs qui se sont engagés pour la guerre de 14 étaient d'origine servile.
Allez, on y va.
Extrait du film « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied en 2017. La scène se passe au Sénégal en 1917.
Ouvre la bouche.
Ton nom ?
Indema Yatouadema.
Bouaket.
Yatouad.
T'écris ça comment ?
D-I-E-Y-E, chef.
Ton âge ?
Double manopote. 30 ans, chef.
Incorporé. Bravo, soldat. Je te félicite pour ton courage et ton entrain à venir défendre maman patrie.
Et moi ?
Allez.
Et ça a posé des problèmes politiques très intéressants après, parce que quand ils sont revenus de France, après la guerre de 14, il y en a pas mal qui ont été prisonniers, il y a eu des tas d'histoires, mais enfin bon, bref, ils sont revenus. Ils étaient plus au fait des coutumes et des habitudes européennes. Et quelquefois, effectivement, l'administrateur en place disait, ben celui-là qui revient de France, il sait écrire, il sait lire, il connaît tout, je vais le nommer chef de village. Et vous avez eu des retournements de situation sociale, pas si rares que ça, avec la promotion sociale par la culture occidentale d'anciens esclaves qui ont tiré leur épingle du jeu comme ça. C'est un système très complexe.
Vous-même, Catherine Kokri-Vidrovitch, vous avez remarqué, lors de vos voyages, alors on est bien plus tard, on est au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, que même après la colonisation, l'attitude des expatriés vous a choqué et vous avez remarqué que le racisme existait encore.
Ah oui, tout à fait, ça m'a sauté aux yeux quand
ça a perduré.
Je suis arrivée en Afrique, au Gabon, aussi en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, enfin, en 1965, 5 ans après l'indépendance. Et au Gabon, j'ai été pétrifiée par la normalité du racisme blanc des expatriés, on ne disait plus les colonisateurs depuis 5 ans, des expatriés par rapport à la population noire, et avec des effets de dépendance encore très marqués. Par exemple, j'allais à la poste pour envoyer une lettre, j'étais la seule blanche de la poste, ils s'écartaient tous pour me laisser passer. J'ai eu des réflexions, les conversations des anciens colons, moi, me pétrifiaient. Il parlait des Africains en disant alors, ils sont paresseux, ils sont buveurs.
Ils sont gentils, mais ils me paraissent se ressembler tous comme vos arbres.
Téléfilm de 1957, la scène se passe dans la forêt gabonaise au début du XXe siècle.
Ouais, ils sont malins, ils vous tâtent pour voir. Soyez durs avec eux, faites-vous respecter.
Respecter ou aimer?
Ah, vous faire aimer, voilà un mot dont je me vérifierai, hein. N'oubliez pas que vous allez vous trouver seul en présence de quelques douzaines de citoyens dont le grand-papa aimait bien en effet la viande à deux pattes.
Et ça, c'était généralisé.
Une sorte d'essentialisation.
Oui, absolument. C'était le résultat d'un siècle véritablement de racisme. Parce que le racisme, c'est quelque chose de particulier. Penser qu'un être est inférieur parce qu'il est barbare, etc., c'était tout à fait fréquent. Mais le racisme, c'est une fabrication quand on a prouvé que ça n'est pas vrai. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est passé au début des années 20.
C'est-à-dire, ce que vous voulez dire, c'est que quand on démontre, quand le consensus scientifique se manifeste pour dire que la race ne veut rien dire, que c'est un vague nuancier qui ne veut rien dire et que voilà, on ne peut pas différencier, voilà, il n'y a pas de chromosome qui différencie tous nos aspects, nos couleurs, en tout cas qui les hiérarchise, il faut trouver des justifications, il faut trouver autre chose.
Oui, alors le racisme, justement, posait le fait que les êtres humains racialisés, ils étaient inférieurs pour un certain nombre de raisons physiques qui se sont avérées inexactes. Et ça, ce sont les généticiens des années 1920 qui ont commencé à travailler sur la question. Enfin, c'était paru, c'était la génétique qui apparaît à la fin du 19e. Enfin, véritablement, les savants, les généticiens démontrent que la notion de race n'est pas une notion scientifique. Puisque tous les humains de quelque couleur, quelque taille, quelque allure que ce soit, ils peuvent tous avoir une progéniture, c'est la définition de l'espèce. L'être humain est une espèce particulière. Quand il y a une espèce, ben, il n'y a pas de race.
Il n'y a qu'une espèce et il n'y a pas de race. Les scientifiques, les biologistes, les anthropologues et plus tard, les généticiens le démontrent. Et pourtant, on verra qu'au 19e et au 20e, et même aujourd'hui, ces vérités sont battues en brèche par ceux qui ont besoin du racisme pour justifier leur domination. La semaine prochaine, nous allons voir comment les racismes s'adaptent toujours et comment fantasmes, manipulations, croyances utilisent souvent les atours de la rationalité pour imposer les idées et les pratiques racistes. Christophe Imbert réalise Enquête de politique. Franck Olivard est notre recherchiste d'archives. Thierry Dupin assure la programmation musicale. Et Nicolas Delmas était à la technique aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain, samedi à 18h ou dimanche à 23h. Et quand vous voulez en podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien c'est la politique qui s'intéressera à vous.